Cette émission est une reprise.
Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, jeunesse plurielle, faune et violoneux, on danse non pas avec les loups mais avec les bisons qui sont ravis d'être encore là après avoir été menacés d'extinction. Hélène Lequitte va nous en parler. 8 étudiants passent leur semaine de relâche non pas sur une plage du Mexique, de la Floride ou à dévaler des pentes de ski, mais dans les territoires du Nord-Ouest, dans un centre d'accueil pour jeunes de Yellowknife.
J'ai vraiment été comme confrontée à des histoires puis des situations auxquelles j'avais jamais été confrontée avant.
Il est Madelino et acadien dans son cœur. Bertrand Deraspe aime autant son violon que de partir pêcher en mer.
La musique a eu beaucoup d'importance pour moi, mais la mer aussi. Si je partais en tournée, je m'ennuyais de la mer, je m'ennuyais des îles, mais j'ai toujours continué quand même à faire de la musique.
Et la Nouvelle-Écosse ouvre ses portes aux jeunes étudiants étrangers, avides d'une expérience nouvelle.
Et il y a quelque chose de presque thérapeutique ici en Nouvelle-Écosse. Les gens sont tellement sympathiques, sont tellement accueillants, sont tellement chaleureux. Pour eux, c'est toute une découverte d'être dans des écoles en Nouvelle-Écosse. Ça ne correspond pas du tout au système de leur pays. Après, pour les familles d'accueil, c'est un voyage.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Neuf élèves du Collège Sainte-Anne de Montréal ont profité de la réouverture des frontières au territoire du Nord-Ouest pour découvrir les territoires du Nord et prêter main forte au centre d'accueil pour jeunes Home Base de Yellowknife. Ces Montréalais participent au projet Défi Monde, un programme qui a été mis en place pour enrichir leur culture personnelle, élargir leur ouverture au monde, pour voyager, s'investir dans le mieux-être d'autrui et suivre la voie du citoyen engagé, précise le Collège Sainte-Anne, auxquels ces jeunes sont affiliés. Ces élèves de 5e secondaire ont consacré toute leur semaine de relâche à rénover le centre d'accueil pour jeunes Home Base et bien sûr à échanger avec de jeunes adultes des collectivités du Nord et s'exposer à des réalités bien différentes des leurs. D'autres élèves de leur école se sont rendus quant à eux à Meraki en Colombie-Britannique et un autre groupe aux îles de la Madeleine. Alors notre journaliste Thomas Haïti a rencontré deux d'entre eux, Alexandra Tarnowski et Yan Yao Alex Lee.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous raconter un peu ce que vous venez faire dans le Grand Nord canadien pendant votre semaine de relâche?
Dans le fond, on est un groupe de 8 étudiants puis une coach qui viennent faire un projet avec le home base ici à Yellowknife. On vient pour... on a réaménagé 3 de leurs pièces pour les rendre plus... comme confortable et chaleureuse pour qu'ils puissent comme plus les utiliser, parce que les personnes qui travaillaient là-bas nous disaient qu'ils étaient vraiment pas souvent utilisés, puis que c'était des grands espaces, qu'ils voulaient que ça soit plus des espaces communs.
Dans quel contexte est-ce que vous venez ici?
Dans le fond, nous deux, on est des étudiants du programme Défi Monde, et depuis notre secondaire 1, on était dans la même classe. On est dans une classe d'environ 35-36 personnes. On a travaillé 5 ans pour être en secondaire 5, et au secondaire 5, on est séparés en 4. Chacun de ces 4 équipes, on va dire, ils ont tous un coach. Et ils vont aller en projet intégrateur. Et dans le fond, c'est nous qui vont choisir l'endroit, le pays dans lequel, l'endroit dans lequel on va faire notre projet. Pour nous, on avait, dans le fond, choisi le Yellowknife, mm-hmm. parce qu'il y a une grande partie de ça, c'était en lien avec la pandémie, la COVID-19. Parce que dans les années passées, les programmes les défis mondiaux, on va dire, c'est ça qu'on les appelle, ils sont toujours allés dans des pays plus loin, on veut dire, comme en Afrique, en Asie, des pays plus...
Sur d'autres continents, là.
D'autres continents, il y avait, ouais, plus dans, des pays plus, qui sont peut-être... J'étais payé plus loin.
Plusieurs personnes en Caraïbes de Montréal, ils avaient une image qui correspondait pas nécessairement à ce qu'ils voient, là. Okay, comment est-ce que vous trouvez Yellowknife? Est-ce que vous êtes dépaysé?
Le Canada, c'est un gros pays. Alors, quand on vient à Yellowknife, c'est quand même très différent qu'à Montréal.
En fait, c'est une des raisons qu'on a choisi Yellowknife, parce que à cause de la pandémie, ils nous ont dit qu'il fallait rester au Canada, puis on a trouvé que probablement à Yellowknife, on serait le plus dépaysé comparé à comme Vancouver. On peut quand même être dépaysé, mais c'est quand même une grande ville et tout. Donc, on a trouvé qu'ici, surtout avec les aurores boréales, et comme personne dans notre équipe n'était jamais venu ici. Donc, c'est une des raisons qu'on a choisi ici.
La mission comme telle? Comment ça s'est passé?
Notre mission pour notre projet?
Oui, tout ce qui s'est... Le temps que vous avez passé là, au centre d'accueil.
Une des choses que le programme veut nous comme, faire vivre, c'est l'ouverture à l'autre. Donc ça, c'était une de nos plus grandes choses, c'est aller à la rencontre de l'autre, puis de vraiment apprendre plus sur des situations qu'on connaît moins et vraiment essayer d'avoir comme une ouverture d'esprit puis être un peu sorti de notre zone de confort. Donc on a définitivement, moi j'ai définitivement vécu ça.
De quelle manière? Dans vos échanges avec les...
Il y a aussi un gros volet de notre projet, c'est qu'il faut faire un reportage et un documentaire. Puis ça, c'est la partie sur laquelle on est évalué. Donc, on a fait quelques entrevues avec les jeunes puis avec les personnes qui travaillent au centre d'accueil. Puis ça a été vraiment touchant. Puis je pense que c'est où j'ai fait le plus d'apprentissage dans ce voyage. J'ai vraiment été comme confrontée à des histoires puis des situations auxquelles j'avais jamais été confrontée avant. Puis, notre mission, c'était aussi peut-être juste d'amener du bien, tu sais, faire quelque chose qu'eux, ils ont sincèrement besoin de. Quand on les a contactés, on leur a pas dit « Oh, on va venir faire ce projet-là », on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient de besoin. Donc, je pense qu'une de nos missions, c'était vraiment de comme combler un besoin, vraiment, au lieu de juste dire « Oh, moi, je sais qu'est-ce que vous avez de besoin », puis...
Ben, qu'est-ce que vous avez appris, oui? Est-ce que vous aviez eu l'occasion auparavant d'avoir des échanges directs comme ça?
Pour moi, dans le fond, à travers les 5 années dans le programme DéfiMonde, on a quand même beaucoup ouvert une ouverture d'esprit. On avait quand même une ouverture d'esprit quand on était enseigné. Mm-hmm. Et je ne veux pas dire qu'on connaît les situations, mais on a bien fait quelques recherches sur... soit les personnes au centre d'accueil ou encore au home base ou encore les foster homes en général. On a déjà entendu qu'il y a une grande parfois ils sont là pour diverses raisons.
Tout à fait, oui.
Et ils sont toujours des raisons, je sais pas, on a été enseigné en défilement de jamais genre ils sont ici parce que ils prennent la drogue là, ce sont des mauvaises personnes. C'est pas on a jamais pensé ça. Je vais pas dire complètement à cause de notre programme, mais oui, en quelque sorte on a été enseigné de ne pas penser ça.
On veut sortir des stéréotypes.
Exactement.
Ça devait être extrêmement intéressant. Vos cours sont j'imagine en grande partie théoriques, de parler, de discuter, d'échanger directement dans le Grand Nord canadien.
Oui, il y a bien sûr des cours théoriques, mais on a aussi quelques expériences peut-être juste à Montréal pour... On a fait du bénévolat. On est parti à la découverte, dans le fond. Et ici, encore une fois, ça nous a prouvé que ce qu'on a été enseigné, c'est vraiment genre important. Parce que on a déjà... Je peux avoir la difficulté à expliquer, mais c'est comme si on était... expliquer que la réalité peut être différente et la réalité pour certaines personnes, c'est difficile et qu'il faut leur comprendre. Mm-hmm. Mais après avoir parlé aux jeunes adultes, aux home base, on a vraiment réalisé que c'est réel, là. C'est vraiment genre une réalité. C'est pas juste des histoires qu'on rencontre. Ouais. C'est beaucoup plus commun qu'on pourrait penser.
Je pense que ça nous a aussi permis un peu de comme sortir de notre petite genre bulle. Parce que surtout en classe, même s'ils nous apprennent des cours de théorie, puis tout, on est quand même dans une bulle d'apprentissage, puis de comme, notre petite vie, là, puis tout. Puis là, vraiment, d'entendre les témoignages et tout, ça nous confronte vraiment face à face avec...
La réalité.
Les histoires, puis la réalité, puis ça, je pense que ça m'a permis de vraiment réaliser à quel point, genre, j'étais choyée dans ma vie, puis tout.
Donc, prochaine étape, on tourne à Montréal et vous allez faire, vous dites, un rapport, un reportage par rapport à votre expérience?
Comme elle a expliqué déjà, c'est un reportage ou encore et aussi un documentaire. Le reportage, ça toucherait sur notre projet, notre expérience à Yellowknife. Et le documentaire, c'est notre choix, dans le fond. Et nous, on a décidé de choisir de parler de la situation...
Des réalités de vivre comme dans
Dans un centre
d'accueil.
Pour les jeunes. Et on va vraiment toucher sur l'importance de l'environnement dans lequel on grandit mm-hmm. et comment ça pourrait affecter notre futur.
Ça me semble très intéressant. Bienvenue à Yellowknife. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent séjour.
Merci à vous. Merci beaucoup pour l'expérience.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Cette émission est une reprise.
Eh bien, voir des bisons à l'état sauvage est encore possible un peu partout en Amérique du Nord, dont en Alberta, notamment du côté de la ville de Zama dans le comté de Mackenzie. Plusieurs s'émerveillent d'en croiser à environ 300 mètres de la route. D'ailleurs, près de 600 bisons des plaines vivent aujourd'hui dans le nord-ouest de cette province canadienne. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Son cousin, le bison des bois, figure encore sur la liste des espèces menacées d'extinction. Le bison des plaines, lui, parcourait autrefois librement l'Amérique du Nord. On comptait entre 30 et 70 millions d'individus dans les années 1800, imaginez. Aujourd'hui, grâce à leur réintroduction dans les années 1980, on peut les observer en Alberta, mais aussi en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et au Manitoba, et aussi dans les territoires du Nord-Ouest. Alors, que deviennent nos bisons canadiens? Notre journaliste Hélène Lequit en discute avec Natalka Melniki, biologiste de la faune sauvage et résidente de Rivière-de-la-Paix depuis 8 ans.
Au lieu de compter les moutons, on peut compter les bisons. Il y a plusieurs jours, près de la ville de Zama, dans le comté de Mackenzie, un internaute a posté une photo où environ une centaine de bisons marchaient à environ 300 mètres de la route. Un spectacle qui fait plaisir à voir, mais est-ce aussi inhabituel qu'il n'y paraît? On s'est tourné vers Natalka Melniki, biologiste de la vie sauvage. Elle vit et travaille depuis 8 ans à Rivière-la-Paix. On l'écoute nous en parler.
It's not unusual. This area is often populated by larger groups of wood bison. They came to the area through a reintroduction back in 1983. This was a Canadian Wildlife Service initiative to reintroduce wood bison into 4 different jurisdictions within Canada. This bison was a joint effort between the DENITA, the Canadian Wildlife Service, and the Alberta government at the time.
De quelques individus, nous sommes passés à plusieurs centaines. Combien y a-t-il de bisons sauvages à présent en Alberta et dans la région? Natalka Melniki nous partage ses statistiques.
That population started from just a few individuals brought up from Elk Island National Park. Since that time, they have expanded quite a bit and grown in population size. We do manage them to a goal of between 400 and 600 individuals is often where we get reports of sightings of larger groups of these wood bison.
Depuis leur réintroduction en 1983, aujourd'hui entre 400 et 600 bisons foulent quotidiennement le sol albertain en partant du parc Elk jusqu'à la zone de la ville de Zama. Le bison sauvage fait de nouveau partie du paysage après avoir été proche de l'extinction. Aujourd'hui, l'Alberta lui a donné le statut d'espèce en voie de disparition en vertu de la loi sur les espèces en danger, de Wildlife Act de l'Alberta. Plus qu'un symbole de la culture et de l'histoire canadienne, il participe aussi à l'écosystème.
Bon, les bisons, vous savez, il y en a en pleine nature, bien sûr, mais aussi dommage pour eux sur nos tables. L'élevage du bison est de plus en plus populaire. Les Européens en sont eux aussi friands, si bien que l'Association des producteurs de bisons de l'Alberta a le vent en poupe.
Partait à 100 lieues à la garde de Dieu, sur de vieux rafiaux, passait souvent sous l'eau. Affrontait la mer à voile et à prière. Pour femmes et enfants revenaient en amont.
Le musicien madelino Bertrand Deraspe est un violoneux bien connu des îles de la Madeleine, mais aussi dans toute l'Acadie. Les Acadiens de Chéticamp, Nouvelle-Écosse, et ceux des îles de la Madeleine ont toujours, dit-on, entretenu des liens étroits, et Bertrand de Raspe est de ceux-là. Il est un homme particulier. Il aime autant s'adonner à son métier de pêcheur, duquel il vit depuis près de 45 ans, et prendre la mer, respirer l'air du large, que de suivre les airs des musiques qui ont bercé son enfance et sa vie, la mer que l'on retrouve dans son répertoire musical. Bertrand de Raspe a littéralement grandi entouré des violons de son père et de ceux de plusieurs violoneux des îles de la Madeleine et du Cap-Breton que sa famille côtoyait, parmi eux Winston Scotty Fitzgerald du Cap-Breton et Tijan Carignan du Québec. Bertrand de Raspe est aujourd'hui devenu une figure de proue du patrimoine musical madelino et acadien. Notre journaliste Daniel Aucoin, basé à Chéticamp, lui a ouvert son studio.
Bertrand de Raspe, bonjour.
Bonjour Daniel.
Bienvenue au Cap-Breton, bienvenue à Chéticamp.
C'est dit que ça fait plaisir de voir les cousins.
Ça fait quand même longtemps que tu n'étais pas venu au Cap-Breton.
Ah, ça fait au moins, je n'ai pas compté les années, mais ça a été long. Au moins une dizaine d'années, certains, je penserais. Parce qu'auparavant, je venais à tous les fins de pêche, je ramenais mon équipage avec moi, puis on s'organisait pour venir au Dorryman pour une journée ou deux.
Bertrand, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette connexion entre les gens des îles de la Madeleine et les gens de Chéticamp. On peut dire que c'est de la famille.
Ah, ça commence, je comprends. Puis surtout, moi, mon petit village, c'est Pointe-aux-Loups. Puis il y a juste la dune c'est la dune qui nous relie avec Fatimont. Puis Fatimont, Chéticamp, c'est encore plus, là. Mais c'est sûr que ça connecte certains.
Alors, toi, t'es musicien, chanteur, violoneux. La musique, ça a toujours été important dans ta vie?
Oui, ça a toujours été important. De toute façon, mon père était violoneux, puis il faisait la pêche. Ça fait que la musique a eu beaucoup d'importance pour moi, mais la mer aussi. Ça fait que séparé des deux, puis tout ça pour dire que tout ce que j'ai composé, ça a rapport à la mer et aux accents et tout ce que... Si je partais en tournée, je m'ennuyais de la mer, je m'ennuyais des îles, mais j'ai toujours continué quand même à faire de la musique. C'est juste pour moi de la cave, comme on dit.
T'as commencé à jouer du violon, t'étais pas au vieux, t'avais 4 ans?
Ouais, c'est ça, c'est que mon père était souvent parti dans ce temps-là. Il travaillait comme débardeur quand la pêche était finie. Et puis, quand il arrivait, je m'ennuyais, comme de raison. Ça fait qu'il m'assoyait sur ses genoux, puis il me faisait jouer du violon. Mon père, il s'appelait Arnold. Il avait des violons partout dans la maison. Il avait un violon au sous-sol. Il avait un violon dans son building, à côté de sa bâtisse. Il en avait un au salon. Mm-hmm. Puis toujours qu'il jouait. Il pouvait commencer à travailler. Puis à un moment donné, on le perdait de vue. Puis il était en train de jouer. Puis il écoutait surtout la musique du Cap-Breton.
T'as été un membre fondateur du groupe Suroi, toi?
Ouais. Alcide Pinchot, Pierrot Deras, puis moi-même, Bertrand. Ça a débuté dans les années 76, je penserais, là. Puis, c'est ça, on a drivé ça jusqu'à, comme moi, jusqu'à 80, en 92. En 92, ça a changé d'équipage, parce que moi, de toute façon, quand on partait en tournée, moi, c'était toujours un problème, parce que je faisais la pêche. Puis, te faire remplacer une semaine sur la pêche, là, disant que, tu sais, tu t'en vas en France, c'est correct, là, mais quand tu y vas trop souvent, c'est pas fameux.
C'est vrai que c'est comme au Cap-Breton, aux îles de la Madeleine, il y a beaucoup de musiciens chez vous, hein?
Ah oui, il y a beaucoup de musiciens. Il y a des musiciens presque dans toutes les maisons. C'est violon, c'est guitare, c'est accordéon. Mon père, il ne vivait que pour la musique du Cap-Breton.
Il y a eu Jerry Harlan, il y a eu Winston Scotty Fitzgerald et bien d'autres.
Oui, Jerry Harlan, il y a eu Arthur Muse. Mm-hmm. C'est tous des gens qui sont venus à la maison chez nous. Puis, ouais, qu'on a passé... des grandes journées.
Ah ben oui, ça va soigner au Festival du Roman. Ça se passe à la grande entrée, puis venez tous vous amuser. Mettez vos bottes de rubber, puis embarquez dans vos chars. Ils vont en voir en masse, on va se bourrer si vous voulez. Et à la fin de la soirée, ils vont en avoir des magadés. Tillet-tallit-lam, ça arrive bien qu'une fois par année. Tillet-tallit-lam.
Parle-nous de tes enregistrements. T'as deux albums?
Ben, le premier album de Suroi. Après ça, il y a eu l'enregistrement avec Si l'amour prenait racine, une cassette. J'ai fait une autre petite cassette. Ben bon, je l'appelle la cassette grise. C'est pas la maison grise, mais c'est la cassette grise. Et puis, j'ai fait un album avec Vent arrière. un violon de, il n'y a pas tellement longtemps, mais ça s'appelle Mes Racines, je pense que vous l'avez. Mm. Puis le tout dernier, ça a été Pêcheur de tradition. C'est des compositions qui parlent des timbres marins des îles avec l'accent.
Comment on explique qu'aux îles, vous avez conservé les coutumes, le folklore, les chansons traditionnelles? Est-ce que c'est parce que vous êtes isolé au milieu de l'océan?
Nous autres, nos traditions, on les fait surtout comme l'hiver. Nous autres, on dit que c'est l'hiver, c'est l'âme des îles, en fait, compte. Parce que l'hiver, tu peux pratiquer ta mi-carême, la chandeleur, ici et ça. Puis, l'hiver, ben, tout le monde est parti. Pas nécessairement le mauvais monde, mais ce qui arrive, c'est qu'on se réunit plus ensemble. C'est vraiment du monde des îles, tu sais.
C'est dommage que on est si loin, chez Tican et les îles. C'est, on n'est pas loin, mais on est loin.
Oui, c'est ça.
C'est ben, compliqué, se rendre chez
c'est
vous.
Compliqué, certain. Puis c'est que si le bateau viendrait ici, ben, c'est sûr que c'est l'île du Prince-Édouard qui l'attraperait, là. Mais ça serait mieux pour vous autres économiquement. Mais c'est pas nous autres qui décident, puis dans l'autre côté. Ça reviendrait au point de vue distance quasiment la même, là, mais ça serait au moins au communiquer ensemble, puis au partir.
Alors, Bertrand Deras, c'est toujours un plaisir de t'accueillir à Chétican. Merci d'être venu dans nos studios. Et bravo pour ta musique. On espère qu'on aura la chance de te voir une autre année lorsque la mi-carême sera normale.
Oui, il n'y aura pas de caméra.
Merci beaucoup.
On n'aura pas besoin de caméra. Ben, merci beaucoup, puis salutations de chez Tican, puis on va raconter ça aux gens des îles.
Cette émission est une reprise. Le Conseil scolaire acadien de la Nouvelle-Écosse est à la recherche de familles pour accueillir des jeunes étudiants internationaux. Étudier à l'étranger est aujourd'hui beaucoup plus facile que cela n'était dans les années 80 ou 90, par exemple, en tout cas à partir du Canada. On le remarque dans nos écoles secondaires, collèges et universités, les étudiants étrangers sont de plus en plus nombreux à poursuivre leur cursus scolaire ici au pays. Et inversement, on peut maintenant passer plusieurs mois, voire plusieurs années à étudier à l'étranger, tout en se faisant créditer les cours qu'on y suit. Pour preuve, en 2019, 250 000 étudiants ont choisi le Canada comme destination d'études, faisant du Canada l'un des plus attractifs auprès des jeunes. C'est ce que rapporte en tout cas l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. L'idée n'est pas étrangère aux écoles francophones du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse, qui est actuellement d'ailleurs à la recherche de familles qui souhaitent accueillir des jeunes de 12 à 19 ans qui viennent étudier dans l'une des 22 écoles francophones du Conseil scolaire acadien. Le Conseil a mis ce programme sur pied il y a quelques années seulement. Il reçoit déjà un accueil très favorable. Pour nous parler du programme d'accueil d'étudiants étrangers, Sébastien Beltran a rencontré Karim Amedjou, le coordonnateur de la diversité culturelle au Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse.
Vraiment, notre objectif, c'est d'aller chercher des élèves francophones de 12 à 19 ans, cette diversité culturelle, mais en même temps, on veut que ces élèves-là soient vraiment fonctionnels au niveau de la langue française, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, pour les autres écoles des centres scolaires anglophones. C'est vraiment important d'avoir ce désir-là d'accueillir un élève international parce qu'en l'accueillant, on découvre toute une autre culture et il va faire partie de la famille. Donc, il faut le prendre en charge et il faut aussi lui permettre de découvrir aussi à la région puis la Nouvelle-Écosse.
Donc, les élèves qui viennent, on est bien d'accord, hein, ils viennent pour leurs études et aussi pour découvrir un petit peu la culture et un nouveau pays. Ils ne viennent pas travailler.
Non, en fait, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas du tout. Ils sont là pour poursuivre leurs études. On a eu des élèves qui sont venus, qui se sont inscrits en 10 et en 11 et en 12. Ça change un petit peu au niveau de l'intention. Il y en a vraiment qui viennent pour les études parce qu'ils veulent poursuivre leurs études par la suite au Canada. Il y en a qui viennent pour faire le bac international chez nous. Il y en a qui viennent aussi pour vivre cette expérience-là quand même d'une région majoritairement anglophone, mais où le français et la communauté francophone existent aussi, mais pour la découverte culturelle. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important aussi. En ce moment, par exemple, on a un élève qui nous vient de Mexique, donc il est mexicain, mais il est aussi canadien. Et puis lui, c'est vraiment le désir de découvrir un autre système éducatif que celui de son propre de son pays, qui est le Mexique.
Donc avec l'expérience de ces deux dernières années, même si on a eu la COVID, donc quel retour ou quel sentiment avez-vous pu recueillir de la part des familles ou des élèves qui sont venus?
Que du positif, c'est-à-dire que les élèves, quand ils arrivent au début, ils sont un petit peu, bien évidemment, anxieux, un petit peu inquiets, un petit peu réservés, parce que, mine de rien, ils quittent leur famille, ils quittent leurs racines, entre parenthèses. Mais après, ici en Nouvelle-Écosse, on a quand même une force d'accueillir les gens. Il y a quelque chose de presque thérapeutique ici en Nouvelle-Écosse. Les gens sont tellement sympathiques, sont tellement accueillants, sont tellement chaleureux. Donc, c'est que des belles expériences. Après, ce qu'il faut savoir, que parfois aussi, un élève peut arriver, il peut être hébergé par une famille d'accueil, mais pour des raisons de compatibilité, ça peut ne pas fonctionner avec un tel élève aussi. Puis c'est là que nous, on intervient. Donc là aussi, il y a beaucoup de flexibilité. Donc les familles d'accueil, elles sont aussi appuyées. Et c'est là aussi le travail que je fais aussi avec les familles d'accueil. C'est un retour positif de la part des élèves parce que pour eux, c'est toute une découverte d'être dans des écoles en Nouvelle-Écosse. Ça ne correspond pas du tout au système de leur pays d'origine. Après, pour les familles d'accueil, c'est un voyage. C'est vraiment un voyage et pour les adultes, mais aussi pour leurs enfants aussi, parce que c'est toute une découverte d'avoir quelqu'un qui parle français, mais qui parle d'autres langues, qui nous parle d'autres choses, qui cuisine autre chose. C'est vraiment une belle expérience humaine et culturelle.
Merci, Karim, d'avoir partagé toutes ces informations.
Merci, Sébastien.
Bien voilà, c'est déjà tout pour nous à Point de vue cette semaine. Vous pouvez écouter toutes nos émissions sur le site canada-info.ca, canada-info.ca, les suivre aussi en balado si vous le souhaitez. On remercie nos journalistes Thomas Etier, Sébastien Beltran, Hélène Lequitte, Daniel Lecoin et leurs invités, notre coordonnateur en information Stéphane Bénard et bien sûr les artistes qui nous prêtent leur musique, merci. Les équipes radio de l'initiative de journalisme local sont des boulimiques d'informations. Ils sont une quinzaine postés dans les provinces et territoires canadiens à fouiner des informations de première main et produisent des douzaines de reportages à chaque semaine que vous pouvez évidemment consulter sur le site de canada-info.ca, canada-info.ca. Suivez-les aussi sur Twitter, @CanadaLJI, CanadaLJI. On vous rappelle que cette émission vous est présentée grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire avec la précieuse collaboration de votre radio locale. Ici Boris Chassagne, merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
Sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.